Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Jusqu'au déconfinement total, notre émission Par ici des sorties n'a plus lieu d'être, mais la musique reste présente. Personnellement, je ne peux penser la période pascale sans Johann Sebastian Bach, celui que nos amis allemands appellent aussi le cinquième évangéliste. Donc, parlons de l'œuvre que vous allez écouter sur plusieurs émissions. Le clavier bien tempéré. Retournons en 1700 et le long voyage à pied de Johann Sebastian. Il arrive début avril à Lunebourg. À peine installé, Johann Sebastian a dû prendre des informations sur les organistes de la ville, qui étaient quand même le bœuf, en attendant de pouvoir aller les écouter. Le monde nouveau, où se trouve plongé notre jeune garçon, est aussi un foyer de culture française. N'oublions pas que le duc est marié à une protestante française originaire du Poitou. Ce duc fait de son mieux, avec ses peu de moyens, pour donner à la résidence de Celles, à 85 km de Lunebourg, le caractère d'un petit Versailles. Il y accueille les Huguenots, que l'édit de Nantes a condamnés à l'exil, et entretient un orchestre constitué principalement de Français. Nous ignorons pourquoi il est parti assez brusquement autour de Pâques 1702 de Lunebourg? Jean-Sébastien choisit de rejoindre sa tribu en Thuringe plutôt que de chercher une situation dans le nord. Le voici donc une nouvelle fois sur les routes, sans ressources et peut-être sans recommandations. On ne sait pas grand-chose de cette époque. Mais chaque pas le rapproche de chez lui, de ses cousins, de sa Thuringe. Il a 17 ans, une forte santé physique et une forte santé morale, une solide formation et un métier musical de haut niveau. La partie la plus faible de son bagage est peut-être sa culture littéraire, mais faute d'argent et peut-être aussi par fidélité à la tradition, il ne songe pas du tout à poursuivre ses études à l'université. Il est artisan. Il a l'âge d'exercer sa profession. Et il en a largement les capacités. Après avoir parcouru plus de 320 km, début mars, Johann Sebastian arrive à Weimar. Dans le Nécrologue, une biographie constituée par Carl Philipp Emanuel Bach et Forkel, on lit: En 1703, il vint à Weimar où il fut nommé musicien de la cour. Tout simplement. On n'en saurait pas plus comment il obtient ce beau poste. Alors, pour accompagner Bach sur les routes campagnardes allemandes, voici le neuvième diptyque en mi majeur qui nous offre en prélude la seule pastorale du premier livre sous forme de lied ABA. Pour la caractériser, citons le théoricien Riemann qui dit: Semblable aux rameaux du feuillage nouveau, frémissent les arpèges légers. Et le tri incessant des oiseaux chanteurs qu'ils abritent. On se croirait à notre époque de confinement, n'est-ce pas? La fugue à trois voix est débordante de joie et sûre d'elle-même. Alors on va écouter Glenn Gould dans le prélude et fugue en mi majeur du premier livre. Thank you. écouter le prélude et la fugue du premier livre de clavier bien tempéré en mi majeur, interprété par Glenn Gould. Alors, continuons la vie de Bach. Entre-temps, Bach est devenu adulte et un vrai professionnel déjà. Il a 18 ans. Oui, nous le retrouvons à Pâques 1703 comme violoniste dans l'orchestre du duc Johann Ernst de Saxe-Weimar. Donc, il est à Weimar. Il y découvre un répertoire très nouveau, où la musique italienne récente est en bonne place. On entend Torelli, il entend Albinoni, pas encore de Vivaldi, parce que Vivaldi est trop jeune, il n'a encore rien publié. En juillet 1703, Johann Sebastian est invité à examiner le nouvel orgue d'Arnstadt. Arnstadt se trouve à 40 km de Weimar. Le 9 août, il est nommé organiste d'Arnstadt. Le salaire est d'un montant inespéré. Il gagnait 84 florins par an, dont 25 proviennent de l'impôt sur la bière, 25 de la caisse de l'église et 34 de celle de l'hôpital. Décidément, c'était alors une autre époque. C'est ici qu'il renoue avec sa famille, les Feldhaus, où il fait la connaissance de ses trois cousines, dont la plus jeune, Maria Barbara, qui a alors 19 ans. Puis pendant cette période, une petite histoire rigolote, il demande un congé pour se rendre à Lübeck, où Buxtehude cherche un successeur. Mais il y a une condition annexe, celui qui prend sa place comme organiste est obligé de se marier avec la fille de Buxtehude. Händel et Matheson postulent, puis Bach. Tous les trois, ils refusent le poste. Pourquoi Mademoiselle Buxtehude était-elle si rebutante? Malheureusement, je n'ai pas la réponse parce que l'histoire ne nous le dit pas, mais on peut s'en douter. À son retour, le consistoire de la ville de Weimar, d'Arnstadt, veut une explication sur sa longue absence, plus de 3 mois tout de même. La réponse de Johann Sebastian est tout juste polie. Il l'a fait à apprendre des choses relatives à son art. Quelques mois plus tard, c'est une nouvelle convocation. Jean-Sébastien Bach prélude trop longtemps et d'une façon trop compliquée. Sa réaction, dorénavant, il en fera le minimum. Nouvelle convocation. Bref, l'ambiance se détériore sérieusement, vous l'aurez compris. Alors, un poste d'organiste se libère à Mühlhausen. Jean-Sébastien fait intervenir le clan local Bach et obtient le poste. Il est nommé organiste là-bas à Mühlhausen le 15 juin 1707. Alors, dans le clavier bien tempéré, nous arrivons à la tonalité de mi mineur, très en vogue chez les romantiques, notamment donc plus tard. Pensons à Mendelssohn avec le songe d'une nuit d'été ou à son concerto pour violon, par exemple. Bach nous fait entendre un prélude très contrasté. Une première partie très mélodique et expressive sur une basse continue, suivie d'un presto, une toccata qui est en réalité un rappel du dessin de la basse continue de la première partie. Dans la seule fugue à deux voix du premier livre, nous aurons l'impression d'entendre des instruments à cordes qui évoluent tantôt en dialogue, tantôt dans un même élan à la tierce, la sixte ou à l'octave, toujours avec des basses très importantes. Donc écoutons maintenant le prélude et la fugue en mi mineur par Friedrich Gulda. Thank you. la fugue du clavier bien tempéré, premier livre en mi mineur, joué par Friedrich Gulda. Et on a laissé Bach qui venait d'arriver à Mühlhausen. Mühlhausen où il peut s'installer confortablement maintenant, il y est respecté. C'est donc le moment de se marier avec sa cousine Maria Barbara. Puis, à peine un an après, il apprend que l'on cherche à remplacer l'organiste devenu infirme de la cour de Weimar. Un poste nettement plus intéressant et plus prestigieux que son emploi actuel, et qu'il obtient une nouvelle fois grâce à l'appui des siens. Nous sommes donc maintenant en 1708. À Weimar, le duc Wilhelm Ernst a 46 ans. Il règne depuis 1683. Weimar est une petite ville. C'est encore un monde clos, préservé des guerres. N'oublions pas qu'on est en plein succession d'Espagne. La guerre de succession. La cour est soucieuse de paix, de bien-être, de musique, de vie religieuse. On est à Weimar, c'est l'orthodoxie luthérienne qui prévaut. Le duc a une passion pour la musique qui accompagne la vie quotidienne. Plutôt rare. Rigoriste en matière de dogme, le duc a des idées très larges en matière de musique. Pourvu qu'elle soit belle, la musique ne peut que rendre le culte plus agréable à Dieu et inciter à la piété. Voilà son dogme. Le duc Wilhelm Ernst est déjà un despote éclairé selon l'idéal de l'Aufklärung. Il est protecteur des arts à sa cour, il a le souci d'éduquer ses familiers, ses serviteurs. Il veut que l'on soit pieux et qu'on en ait du goût. L'argent est dépensé à tout ce qui est susceptible de faire avancer ses administrés sur la voie du progrès moral. Bach est heureux là-bas. Il a maintenant deux orgues à sa disposition. Il peut improviser et préluder au choral comme bon lui semble. Personne ne lui dit rien. Et Bach se perfectionne alors pour devenir à 25 ans le meilleur organiste d'Allemagne. Pendant 5 ans, il se consacre exclusivement à l'orgue et compose pendant cette période de Weimar sa plus grande partie de sa musique d'orgue. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est entre 1708 et 1716, en gros. Sa réputation croissante lui amène des élèves. Il y a toujours son fidèle Johann Maria Schubart qui vit avec les Bach et qui est son assistant. Fin 1708, Maria Barbara met au monde son premier enfant, une fille. Deux ans après, c'est un garçon, Wilhelm Friedemann, fils pour qui Bach aura une passion et qu'il essaiera de façonner à son image. Il l'appelle son cher Fried. À 4 ans, son plus grand bonheur était de se glisser sous le clavecin lorsque son père joue. C'est pour ce fils chéri que Bach écrira quelques années plus tard un petit livre pour clavier, dont nous vient le prélude en fa majeur inséré dans le clavier bien tempéré. Ce prélude sera suivi d'une fugue à 3 voix sous forme de gigue ou de passe-pied si vous voulez. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça danse. Alors écoutons le prélude pour son cher fils et la fugue qui danse en fa majeur par Swatislav Richter. Thank you. Le prélude et fugue en fa majeur du premier livre de Clavier bien tempéré, interprété par Swatislav Richter. Et nous sommes à la cour de Weimar avec un duc Wilhelm Ernst qui adore la musique et qui fait tout pour que chacun puisse en profiter. Une situation de rêve pour Bach. Les chanteurs et les instrumentistes de la cour sont excellents. Bach écrit en 1714 et 1715 une cantate toutes les 4 semaines pour cet ensemble inespéré. Puis la bibliothèque musicale est très riche. Il découvre et copie de la musique de Frescobaldi, de Corelli, Torelli, Albinoni et de Vivaldi. Vivaldi sera la grande découverte des années de Weimar, découverte dont l'influence sera durable sur le travail de Bach. Entre-temps, d'autres enfants sont nés, dont Carl Philipp Emanuel et en 1715, Gottfried Bernhard, le 6e enfant. Avec le fidèle assistant Schubart et deux neveux de Johann Sebastian venus prendre des cours, la maison est bien remplie. Maria Barbara ne chôme pas et a de quoi occuper ses journées, hein, vous le réalisez bien. Puis, malheureusement, le ciel s'assombrit dans le duché avec une querelle entre régent et co-régent. Le co-régent prendra le dessus et fait une sorte de chasse aux sorcières dont Johann Sebastian Bach fait les frais. La musique n'est dorénavant plus une priorité. Malgré le mépris dont le nouveau duc de Weimar traite son organiste, la réputation de ce dernier grandit. Il est invité partout pour expertiser des orgues. Mais Bach fait la grève. Il ne compose plus ses cantates mensuelles. Cette révolte d'un homme jeune d'un caractère entier, parce que n'oublions pas que c'est un bélier qui est né en mars, les doutes qui l'habitent, nous le retrouvons dans le diptyque en fa mineur qui nous fait arriver à mi-chemin de la promenade à travers les tonalités. Le prélude est des plus touchants, 22 mesures où le chant est partout dans une sonorité d'orgue, d'une mélancolie grise. Le sujet chromatique de la fugue nous fait avancer à pas compter, comme accablé. Avant d'être libéré de ses chaînes par les doubles croches révoltées du contre-sujet. Puis arrivent les divertissements apaisants s'opposant à toute cette amertume. Alors écoutons le prélude et fugue en fa mineur, joué par Glenn Gould.